Les séminaires du Collège de France.
Mesdames, Messieurs, donc on va passer au séminaire qui fait vraiment là aujourd'hui directement la suite avec le cours. Donc on s'est arrêté à la fin du chapitre 9 et on va continuer avec le chapitre 10. Ce qui m'arrange beaucoup parce que comme je suis un peu en retard, donc on peut en effet terminer comme prévu. Et j'ai le grand plaisir de vous présenter Jörg Kutzli, qui connaît bien le Collège de France, parce que jadis, il y a travaillé comme ATER, ça fait un moment, je ne sais pas exactement quand c'était.
2009 à 11,
donc voilà. Et il est maintenant donc maître d'enseignement de recherche suppléant à l'Université de Lausanne. Il enseigne à Genève, les langues sémitiques notamment, mais aussi les textes bibliques. Il a appris beaucoup de langues sémitiques, alors je ne sais pas tout vous énumérer, mais donc là je vois qu'il a fait ougaritique, l'hébreu mishnaïque, l'hébreu moderne, le syriaque, aux universités de Berne, de Lucerne et de Bâle. Il est aussi à Jérusalem pour s'initier à la critique textuelle. Sa thèse, il l'a fait sur le début du livre de Samuel, aussi dans une perspective un peu de comparer les versions grecques avec les versions hébreux. Et tout récemment, il a sorti son habilitation. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit « Mais c'est quoi P ?» Alors, pour P, c'est le document des prêtres, c'est le document sacerdotal. Il vient de consacrer un livre important, justement, qui s'appelle exactement, que je le dise vraiment comme il faut, voilà. The Origins of P, Literary Profiles and Strata of the Priestly Text in Genesis 1 to Exodus 40. Donc, les strates et le profil littéraire de P. Donc, si vous voulez tout savoir sur P, si vous n'avez toujours pas compris ce que c'est P, ben, c'est difficile à comprendre. Vous pouvez lire ce livre, mais il va continuer à vous parler un peu de P, parce qu'une des idées de Jörg, c'est aussi que P n'a pas écrit ses textes à partir de rien, qu'il avait aussi des sources, des documents, des traditions, et il va nous montrer ça à l'exemple de Genèse 10. Donc, Genèse 10, une map monde en forme littéraire. Voilà ce que nous allons entendre maintenant. Merci beaucoup et puis voilà, c'est à toi.
Alors, merci beaucoup à Thomas pour l'invitation et pour pouvoir animer ce séminaire. C'est un grand plaisir d'être là de nouveau. Merci. Alors, vous avez déjà vu lors de ces cours de Thomas Remer précédents que l'histoire des origines est une section dans le livre de Genèse à part. Souvent, cette section est considérée comme indépendante des autres parties qui suivent. Alors, consistant de différentes unités qui sont liées plutôt entre elles qu'à des textes extérieurs à celles-ci. De plus, les récits de Genèse 1 à 11 semblent se dérouler dans un ordre chronologique. On peut facilement suivre le fil de la narration, même si les tensions, les doublons et les contradictions de l'ensemble de l'histoire n'échappe pas au lecteur attentif. Ces observations invitent bien sûr les chercheurs à réfléchir à la composition et à la formation de cette première grande section du livre de la Genèse. Quelle est maintenant la place de la table des nations en Genèse 10 dans cet ensemble complexe? Quelle est sa relation avec les compositions voisines au sein de l'histoire des origines, en Genèse 1 à 11? Si l'on se penche sur cette question, on se voit confronté à une autre question tout aussi importante. Est-ce que la composition Genèse 10 est-elle unifiée ou peut-on distinguer différentes strates? Enfin, se pose une troisième question qui nous occupera lors de cette conférence. Quel est le contexte historique de cette composition. Je commence maintenant avec la première de ces questions. Quelle est la place de la table des nations en Genèse 5 à 10 et dans l'histoire rédactionnelle de cet ensemble? Ce qui saute aux yeux, c'est l'ouverture de cette composition de la table des nations. Les trois fils de Noé, Sem, Ham ou Cham, je crois plutôt en français, et Japhet, sont introduits comme les trois ancêtres de l'humanité post-diluvienne qui est présentée par la suite sous la forme d'une généalogie segmentée. La mention des fils de Noé avec leurs noms Sem, Ham et Japhet relie la table des nations à deux autres compositions dans lesquelles Noé et ses trois fils font également leur apparition. Ça, vous avez bien sûr déjà vu lors du cours précédent. Le récit du déluge en Genèse 6 à 9 est l'histoire de l'invention du vin et de l'ivresse de Noé. Comme ce dernier récit traite également du thème de l'expansion de l'humanité après le déluge, dont on a parlé, une comparaison de Genèse 10 avec cet épisode s'impose tout particulièrement. Tandis que dans le récit de l'invention du vin, les événements racontés résultent en une relation hiérarchique entre les trois patriarches et leurs descendants respectifs, la table des nations montre la dispersion égale des ancêtres dans le monde et leur différenciation en nations, tribus et langues. Les peuples semblent tous se situer au même rang. Aucune hiérarchie ne peut être établie entre eux. L'expansion de l'humanité après le déluge est présentée de manière très différente dans ces deux textes. Juste après le récit du déluge et la table des nations se trouve un troisième texte qui parle de l'expansion de l'humanité, le récit de la tour de Babel en Genèse 11. Ici, la dispersion et la ramification ethnique des hommes résultent de l'orgueil démesuré des hommes, c'est-à-dire de leur tentative d'atteindre le monde divin et de se faire un nom. Donc, au Lion, chapitre 11-4. Ce récit ne semble pas présupposer ni l'événement du déluge, ni Noé et ses trois fils. Nous constatons donc que le thème de l'expansion de l'humanité à l'époque des origines occupait les auteurs bibliques et a été vu de différentes manières. Je reviens aux trois différentes compositions qui mentionnent Noé et ses trois frères. Donc le récit du déluge, celui de la mention du vin par Noé et la table des nations. Une différence frappante consiste en le fait que l'ordre des trois fils est différent dans chacune des trois compositions. Donc, déjà à la fin de la généalogie de Genèse 5, et après dans le récit du déluge, on a l'ordre Sem, Cham, Japhet. Le récit de la viticulture à la séquence Sem, Japhet et Cham. Enfin, la table des nations présente l'ordre Japhet, Cham et Sem. Comment expliquer ces différences? Quel est l'ordre original? On s'approche de la réponse à cette question en examinant la place des fils de Noé au sein de ces trois différentes compositions. La réponse pourrait nous éclairer sur l'histoire rédactionnelle de ces unités littéraires qui se trouvent en Genèse 5 à 9, ou 10 plutôt, et leur relation entre elles. Dans ce but, nous allons regarder de plus près le genre littéraire de la structure de la table de nations en Genèse 10. Genèse 10 est une généalogie segmentée. La fonction d'une généalogie segmentée, à la différence d'une généalogie linéaire, est la suivante. Elle présente un ancêtre d'une tribu ou d'un peuple, de laquelle ou duquel suivent plusieurs lignages parallèles. La généalogie linéaire, quant à elle, retrace une seule lignée allant de l'ancêtre aux descendants, alors par exemple Genèse 5. La présentation de la généalogie segmentée permet ainsi aux descendants contemporains, donc que ce soit des individus, clans ou tribus, de se situer les uns par rapport aux autres selon leur degré de parenté. La particularité de la table des nations Genèse 10 consiste dans le fait qu'elle présente la ramification ethnique de toute l'humanité post-diluvienne. Nous trouvons dans ce texte les peuples des différentes régions autour de la Méditerranée et il semble évident que l'auteur veuille donner un aperçu du monde entier tel qu'il était connu à son époque. Alors pour ça, c'est un texte assez long. Je dis bien un aperçu ou un survol et non une représentation complète du monde connu par cet auteur. Car en lisant attentivement le texte, nous constatons que la descendance des trois patriarches et de leurs descendants directs et fragmentaires. Prenons l'exemple de Japhet. Donc c'est le premier ancêtre qui est nommé avec ses descendants. Il est dit de lui qu'il avait 7 fils, Gomer, Magog, Médian, Yavan, Tubar, Mécher et Tiras, mais que seuls 2 d'entre eux avaient une descendance. En ce qui concerne les autres fils de Japhet, nous ignorons leur postérité. Une analyse détaillée de la péricope montre également certaines différences de style et incohérences au sein de la composition. Il y a des sections où le style est énumératif avec des éléments répétitifs qui structurent la composition. D'autres parties contiennent de brefs épisodes narratifs avec un vocabulaire distinct. La plupart des chercheurs s'accordent sur le fait qu'il s'y trouve 2 strates littéraires différentes, à l'instar du récit du déluge qui précède immédiatement. Donc, Thomas Remer a bien montré ces 2 strates. J'ai surligné les 2 strates avec 2 couleurs. En jaune, c'est la strate P et en bleu turquoise, c'est la strate J ou non P. Je vais m'attaquer donc à la deuxième question indiquée ci-dessus, sans pour autant abandonner la première, qui n'est pas encore résolue. La théorie documentaire classique attribuait en effet certaines parties de Genèse 10 à J ou non P est la composition de base cohérente et plus complète à la source P, donc le récit sacerdotal. Et la strate P était considérée comme plus tardif. Alors J, ou non P, est plus ancien. Aujourd'hui, pourtant, un nombre croissant de chercheurs considère la formation de ces textes de manière inverse. La composition sacerdotale constitue la strate la plus ancienne. Ce n'est que plus tard que des passages non sacerdotaux, épars, mais aussi le récit non sacerdotal sur l'invention du vin, en Genèse 9, 18, 27, auraient été ajoutés. Il y a plusieurs arguments qui rendent cette hypothèse probable, à mon avis. La composition de P semble plus cohérente et structurée et se distingue en cela des passages attribués à J qui donnent l'impression d'une strate fragmentaire. J ne présente en effet que des descendants de... Donc si on revient là, vous le verrez... que des descendants de Ham et de Sem, ou Shem, mais non ceux de Japhet. Donc au début, les descendants de Japhet, c'est tout en jaune, donc c'est la strate sacerdotale. Après, certains motifs et thèmes dans la strate J, non P, s'expliquent par la volonté de réorganiser l'intrigue sacerdotale et de contrer la théologie sacerdotale égalitaire, donc c'est un mot utilisé par Albert de Pury, qui s'est beaucoup appuyé sur cette théologie de paix, donc théologie égalitaire, et la couche J, par contraste, met clairement en valeur Sem et les peuples attribués à lui. Le récit de viticulture mentionne de manière positive le dieu de Sem, qui est identifié à Yahvé. Genèse 9, 26, donc vous lisez « Béni soit Yahvé, le dieu de Sem ». Et la couche J de la table des nations classifie parmi les Sémites Héber, un descendant, qui fait clairement allusion aux Hébreux, Ivrim, et ainsi à Israël. Ce qui plaide, à mon avis, pour la priorité diachronique de paix, c'est surtout après le fait que les fils de Noé et leur nom ont une fonction cruciale dans la table des nations, la strate paix, contrairement au texte non P mentionné. Sem, Ham et Japhet apparaissent certes aussi dans le récit de l'invention du vin, mais comme vous avez vu, ce récit culmine étrangement dans la malédiction d'un autre protagoniste, Canaan. Cela montre que le concept des trois frères ne se développe pas de manière organique à partir de ce récit de l'invention du vin, mais a été emprunté par l'auteur de ce dernier à la table des nations en Genèse 10, où ces trois protagonistes sont bien ancrés. Dans le contexte de la table des nations de paix, les trois noms peuvent être expliqués comme des noms évocateur ou programmatique. En fait, la division tripartite du monde en Genèse 10 semble se faire selon deux critères, à savoir la position géographique et la signification des noms. D'abord, les trois fils de Noé représentent les trois régions du monde. Le nord, c'est Japhet, le sud, c'est les peuples de Ham et l'Est, ceux de Shem. Donc là, vous avez la carte avec la, l'indication de ces peuples, ces nations. Les noms des nations attribuées à ces trois régions sont surlignés en trois couleurs différentes que vous voyez ici. Selon l'appartenance généalogique, seulement un peuple, celui de la Lydie, Loud en hébreu, donc qui se trouve en Genèse 10-22, ne correspond pas vraiment à sa position géographique. Donc vous voyez là Loud qui se trouve en Anatolie plutôt qu'à l'est que les autres nations ou peuples appartenant à Shem, donc surligné en vert. Alors, premier critère, c'est la position géographique. Le deuxième, chaque nom, par sa signification, semble faire allusion à une caractéristique de la région concernée. Ça semble particulièrement évident pour Ram, car Ram peut être associé à chaleur, qui est en hébreu Chom, et ou chaud, en hébreu Ram. Et Ram englobe en effet uniquement des nations situées dans les régions chaudes au sud. Donc si vous regardez encore une fois cette région, c'est toutes ces nations où le nom est en brun. Donc le nom de Shem a probablement le sens de grand nom, renom, réputation. Ce qui fait sens dans la mesure où Shem est considéré comme l'ancêtre de cinq nations, régions de grande importance au Levant pendant la première moitié du premier millénaire avant notre ère. Donc ce sont ces cinq fils de Shem qui sont l'Élam, Ashur, donc la Syrie, Arpachshad, peut-être, probablement, Babylone, la Lydie, Lut, et l'Aram. Pour Élam et Assur, cela va de soi. C'était des nations de grande importance au début du premier millénaire et également pour Babylone, ça se comprend. Mais là, il faut dire que l'identification d'Arpachshad avec Babylone, c'est-à-dire l'empire néo-babylonien, n'est pas sûre. Selon Lipinski, les trois premières consonnes du nom, donc Aleph, Resh et P, pourraient faire allusion au mot pour arabe, nomade arabe, même s'il y a le problème que normalement c'est écrit dans les langues sémitique avec Aïn et plutôt avec un Bet en troisième position. Sebas, en s'appuyant sur cette idée, se demande si Arpachshad désigne une Chaldée arabisée, donc à l'époque de Nabonide, qui avait des relations avec l'arabe. La deuxième partie du mont pourrait faire allusion à Kastim, le gentilice qui désigne les Chaldéens et qui est un élément du toponyme Ur Kastim, Ur des Chaldéens, qui est le lieu de la naissance d'Abraham, selon le récit sacerdotal sur Abraham. Quant à la Libye, j'en ai déjà parlé, son attribution Hachem, aux nations du grand renom, s'explique par le fait que la Lydie fut un royaume puissant au 7e siècle et également dans la première moitié du 6e siècle avant notre ère, la période où Crésus, le roi fabuleusement riche, régnait sur ce royaume. Finalement, l'inclusion d'Aram parmi les peuples du renom est due au pouvoir politique des petits États araméens qui sont attestés, bien attestés dans les annales assyriens et aussi dans la Bible, dans les livres des rois où Hazael et Retzin jouent des rôles importants. Mais ça pourrait aussi être dû à l'importance de la langue araméenne, devenue une lingua franca dans le Levant dès le 7e siècle avant notre ère. Regardons maintenant de plus près le patriarche Japhet. Il peut être associé à beau, agréable, la racine Yafa, en hébreu, en référence à l'art et l'artisanat très appréciés provenant des régions septentrionales. Cette interprétation est basée sur l'observation que Genèse 10 a plusieurs points communs avec la péricope portant sur le déclin de Tyr en Ézéchiel 27, dans laquelle la beauté Yofi, en hébreu, de Tyr est un motif clé. La splendeur de Tyr provient des produits magnifiques typiquement associés aux partenaires commerciaux internationaux de la ville portuaire, majoritairement se situant, comme j'ai dit, au nord. Il est frappé de constater que parmi ses partenaires, on trouve plusieurs fils de Japhet. Après, il y a aussi une autre interprétation de ce nom. Et Japhet serait dérivé du nom du titan grec Iapetus. Ce qui favorise l'interprétation des noms de Sem, Ham et Japhet comme des noms évocateurs artificiels, c'est d'une part le fait que les trois significations suggérées correspondent aux trois régions du monde, avec des caractéristiques typiques beauté et l'artisanat, de l'artisanat pour le nord, chaleur pour le sud, et grand renom pour l'Orient. Et d'autre part, que les trois noms sont presque totalement absents de l'onomastique du Proche-Orient ancien, alors ces trois noms de Shem, Ham et Japhet. Il existe, c'est vrai, deux attestations de Shem, mais seulement en tant que forme courte ou hypocoristique d'un nom de personne. Alors, Shem n'est pas vraiment un vrai nom de personne. Et Ham apparaît dans trois psaumes tardifs pour désigner l'Égypte, en psaume 78, et les psaumes 105 et 106, mais ces psaumes sont considérés le plus souvent comme très tardifs. Alors, cette désignation pourrait être influencée justement par Ham dans la table des nations. En revanche, la plupart des descendants des trois ancêtres, c'est-à-dire les nations mentionnées dans la strate sacerdotale, sont attestés, la plupart d'eux, dans les sources anciennes et peuvent être identifiés avec une certaine certitude. Par la division géographique tripartite des nations énumérées, la composition proto-sacerdotale représente une véritable map-monde littéraire. Dans cette fonction, le texte est, à mon connaissance, unique au sein de la Bible et aussi de la littérature du Proche-Orient ancien. Certes, la division du monde en trois parties était connue à l'époque d'Hérodote. Hérodote, dans le livre de son enquête, se moque en effet des gens qui divisent le monde en trois. Pour lui, cela semble avoir quelque chose d'arbitraire, car il considère la terre comme une. D'ailleurs, la division que les cartographes de ces jours, donc les jours de Hérodote, proposaient se distingue de celle du texte biblique en Genèse 10. Vous voyez ici une représentation. Ce sont deux fleuves, le Nil en Égypte et l'Euphrate en Géorgie, qui marquent les frontières. Donc, ce qui est intéressant, surtout le Nil qui divise l'Égypte en deux, et après le face se trouve ici. En cela, la table des nations se distingue de cette représentation. Clairement, une différence importante par rapport à celle-ci consiste en le fait que Genèse 10 attribue le pays de Canaan à l'Égypte, comme on a vu. Alors, si on revient à la carte, si on veut, de Genèse 10, donc on voit bien la Palestine, Canaan, fait partie des peuples de Ham. Comme indiqué au début, les trois fils de Noé sont également mentionnés brièvement dans le récit sacerdotal du déluge. La généalogie de Genèse 10 constitue ainsi la suite naturelle du récit du déluge selon P. C'est semble logique. Pourtant, l'ordre inversé des trois fils dans le récit du déluge par rapport à l'ordre qui forme la structure de la table des nations pose un problème. Sem vient en premier, suivi de Ham et de Japhet en troisième position, selon le récit du déluge. Cela pourrait indiquer que les deux textes, malgré leur appartenance à la même strate, à savoir P, ne soient pas de la même main. Il est probable que l'auteur du récit sacerdotal du déluge a repris la table des nations préexistante et lui a fait précéder son récit dans lequel il a changé l'ordre des trois patriarches. Pourquoi voulait-il que Sem soit en première position? Probablement parce que Sem est l'éponyme de la lignée qui mènerait à Abraham, et donc l'ancêtre d'Israël finalement. Il a toutefois laissé inchangé l'ordre des trois patriarches au sein de la table des nations, Genèse 10. La raison pour cela, qu'il laisse inchangé l'ordre de ces trois patriarches en Genèse 10, pourrait être le fait que la première position de Japhet correspond à la localisation du lieu de l'atterrissage de l'Arche, donc les montagnes d'Ararat, se trouve en effet dans la région de Japhet. Une autre raison est la suivante. Je trouve surtout celle-ci est importante et pertinente. La coexistence de deux ordres différents pour les trois noms empêche les lecteurs de comprendre la séquence des noms de manière hiérarchique. Donc la première partie de mon exposé aboutit à la conclusion suivante. Nous situons l'origine de Japhet, Ham et Shem dans la table des nations en Genèse 10. À ce stade-là, ils n'étaient pas encore fils de Noé, mais étaient des noms artificiels ayant une fonction évocatrice. Ce n'est que l'auteur du récit du déluge qui leur donne la filiation de Noé. Ils deviennent ainsi les fils du héros du déluge. Enfin, l'auteur du récit de l'invention du vin par Noé reprend la disposition familiale de paix en modifiant à son tour l'ordre des trois fils. Ham est désormais le plus jeune et en plus, il met encore un accent idéologique très différent, cet auteur. Les peuples attribués à Sem et Japhet sont considérés comme supérieurs que ceux de Ham. Et parmi ces derniers, Canaan se voit maudit et contraint à une existence d'esclave. Voilà, donc vous avez cette histoire rédactionnelle comme je le vois. Voilà, il faut dire aussi pour l'introduction de la table des nations Genèse 10, là Noé est mentionné, donc ça pourrait être secondaire. Alors, j'aborde maintenant la troisième question posée au début de cette conférence. Quel est le contexte historique de la table des nations sacerdotales qui est, comme nous avons vu, la composition primitive? Une grande partie des chercheurs européens et américains l'attribuent à la période perse. Pour eux, la composition reflète l'oïkouméné perse. Certains chercheurs rapprochent la table des nations à l'énumération des nations dans les inscriptions monumentales des rois perses Darius Ier et Xerxès Ier. Donc il y a deux chercheurs importants qui soutiennent ce rapprochement, mais beaucoup d'autres, et c'est clairement la position majoritaire. Mais une comparaison attentive de ces listes avec le récit biblique montre que dans sa forme, que dans son contenu, la table des nations se distingue nettement de l'énumération des peuples dans ses inscriptions qui a sa propre séquence caractéristique. Vous voyez ici un exemple de ces listes de peuples similaires et ces listes se caractérisent par un ordre assez similaire dans les différentes inscriptions trouvées en perse. Quelles sont donc les différences entre l'énumération dans les inscriptions des rois achéménites et la composition biblique? Alors que la structure de la table des nations est tripartite, l'énumération des nations dans les listes perses est linéaire. En Genèse 10b, la Perse et l'Arabie sont absentes. Les Mèdes et les Élamites, qui sont presque toujours mentionnés l'un après l'autre dans les listes des rois achéménites, sont attribués à deux ancêtres différents, Japhet et Sem, qu'on a vu. Enfin, alors que l'ordre des nations dans les listes perses reflète une importance relative, ce qui est intéressant de voir la Perse, la Médie et l'Élam se trouvent toujours au début de ces listes, il n'y a pas de hiérarchie visible dans la table des nations de Genèse 10. Le fait que la Perse ne soit pas mentionnée dans la composition s'oppose particulièrement, à mon avis, à la datation à l'époque perse. À propos de ce dernier argument, certains chercheurs ont soutenu que l'auteur aurait laissé de côté les Perses parce Il considérait l'émergence de l'Empire perse comme un développement trop récent pour que la Perse soit mentionnée dans cette énumération des nations post-diluviennes. À cet égard, cependant, l'occurrence de Yavan, la Grèce, en Genèse 10, mentionnée principalement, sinon dans les textes post-exiliques de la Bible hébraïque, doit être prise en considération. De plus, à Genèse 10, strate sacerdotale, mentionne d'autres peuples qui devinrent d'importantes puissances régionales quelques décennies avant l'émergence de la Perse, donc au 8e jusqu'au début du 6e siècle avant notre ère. Donc les Cimériens, les Mèdes et la Lydie. Ces observations favorisent l'idée que l'auteur de Genèse 10 ait mentionné des nations sans se soucier du moment relatif à leur apparition dans l'histoire. L'absence de la Perse indique donc une situation antérieure à l'ère perse, à mon avis. Aussi, l'absence du nom arabe, donc pour l'Arabie, qui apparaît après dans les écrits bibliques exiliques et post-exiliques, peut également être significatif à cet égard. Donc on n'a pas arabe dans la composition sacerdotale de Genèse 10. Il convient également de prendre en considération la suggestion de Spiegelberg, un chercheur donc début 20e siècle, de considérer la séquence particulière des Chamites ou Chamites comme une indication pour la datation. Parce que c'est intéressant de voir que Kouch précède l'Égypte dans l'ordre des fils de... Donc si vous regardez les fils de Ham, donc on a Kouch en première position avant Mitzrayim. Ça c'est intéressant. Cela pourrait en effet renvoyer à l'époque de l'hégémonie kouchite en Égypte, donc la 25e dynastie qui commençait à 727 et finissait à 673 avant notre ère, et en particulier au règne important de Taharqa à la fin de cette dynastie. Quant à la question de la provenance géographique de la composition, il faut tenir compte des points communs mentionnés plus haut avec Ézéchiel 27, la lamentation sur le déclin de la ville de Tyr. Ézéchiel 27 est probablement construit sur une liste élaborée de nations avec lesquelles les Phéniciens entretenaient de relations commerciales. Donc à ce sujet, on peut comparer le commentaire de Zimmerli d'Ézéchiel ou aussi celui de Moshe Greenberg. L'auteur de Genèse 10 s'est peut-être également servi d'une telle liste ou de telles listes, peut-être plusieurs, en plaçant ces noms géographiques dans le contexte plus large des trois régions du monde connu. Le fait qu'aucune des villes phéniciennes, alors Tyr et Sidon, ne soit mentionnée et que Canaan est attribué au sud à Ham, pourrait étayer ce point de vue sur la provenance phénicienne de la composition. Un autre argument, une particularité frappante de cette composition est l'absence du point cardinal occidental. L'explication de Lipinski, selon laquelle la liste géographique provient d'une région située au bord de la mer Méditerranée, me semble appropriée. Regardez encore une fois la carte. Donc, vu de la position aussi de la Palestine, Israël, mais de la région phénicienne, l'Occident est occupé par la mer. Alors, à cet égard, c'est aussi possible de penser à la Phénicie comme lieu d'origine de cette composition. Alors, je résume brièvement les résultats de mon enquête. Les trois fils de Noé ont leur place dans la table des nations en Genèse 10. Ils ont été inventés par l'auteur de ce texte. Leurs noms sont évocateurs ou programmatiques. Ils caractérisent les trois régions du monde avec leurs caractéristiques. Cette map-monde en forme littéraire pourrait avoir eu son origine en Phénicie. Cette composition a été reprise après par l'auteur de l'histoire des origines de la strate P. La composition primitive de Genèse 10 n'est cependant pas la forme du texte qui nous est parvenu. Le texte reçu de Genèse 10. Dans ce dernier, on a vu plusieurs ajouts d'origine non sacerdotale, ou J. Ces ajouts tentent de corriger la théologie sacerdotale. Et alors que la composition sacerdotale voit les nations des trois régions du monde dans des relations égalitaires, le rédacteur non sacerdotal insère différents passages qui valorisent les peuples appartenant surtout à Sem, mais aussi à Japhet, et dévalorise ceux de Cham. En ce qui concerne finalement la question de la datation de la composition originale, il est intéressant de trouver plusieurs indices qui suggèrent une origine de cette composition à une époque beaucoup plus ancienne que les écrits de P, tels qu'ils sont majoritairement datés dans la recherche récente. Je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.